Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de la Grande Table aujourd'hui, l'artivisme, un art sans limite. Il se dit artiste politique, Piotr Pawlenski. Dans quelle tradition s'inscrit-il? À quel mouvement rattacher son action? Au lendemain de l'affaire Griveaux, rendez-vous à partir de 12h55 avec l'historien et critique d'art Paul Ardenne. Mais d'abord, pianissimo, la pianiste et chef d'orchestre Vanessa Benelli-Moselle, avec nous pour une double actualité. Un album Ravel, son concert Tour en sol, sorti le 6 décembre dernier, et les suites de Beethoven chez Naïve, sorti le 24 janvier avec le mandoliniste Julien Martineau, qu'elle retrouvera en concert le 2 mars à Toulouse. Au début du mois, elle faisait l'ouverture du festival Présence de Radio France sur une partition du Britannique George Benjamin, compositeur à l'honneur de cette 30e édition. Elle vient nous en parler. Elle est avec nous, Vanessa Benelli-Moselle, jusqu'à midi et demi.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
À l'âge où les enfants commencent à marcher, elle a appris à jouer du piano. Formée à l'Académie d'Imola en Italie, puis au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou et au Royal College de Londres, à 33 ans, elle vit aujourd'hui majoritairement à Paris. Bonjour Vanessa Benelli-Moselle.
Bonjour Olivia.
Depuis 8 ans et un remplacement au pied levé de Martha Argerich, vous n'arrêtez plus concerts, récitals, festivals partout dans le monde. Cet été, vous serez au Mexique ou encore en Uruguay. Au début du mois, vous étiez peut-être plus simplement à Nantes pour sa folle journée où vous avez retrouvé votre complice, le mandoliniste Julien Martineau, pour un concert à quatre mains. Alors, la mandoline, c'est une tessiture assez proche du violon, un instrument roi du trémolo. Mandoline et piano, Vanessa Benelli-Moselle, s'accordent finalement plutôt bien, parce qu'on avait tendance à l'associer cet instrument déjà un peu désuet pour certains, hein. À la guitare, au clavecin, hein, au 18e, à la harpe. Avec le piano, ça s'accorde bien, c'est deux instruments qui dialoguent bien.
Oui, c'est un instrument d'abord italien qui rassemble effectivement, comme vous avez dit, au clavecin, donc l'antenate du piano. Je trouve que c'est une collaboration qui m'a donné envie de me remettre en question et de remettre en question la sonorité du piano à musique de chambre. Quand on joue à musique de chambre, on est obligé de s'écouter. Là, avec la mandoline, encore plus, car la puissance de la mandoline est bien sûr beaucoup inférieure à celle d'un piano contemporain. Car les pianos a beaucoup évolué depuis le début et sa caisse sonore produit un son très très grand pour jouer avec un instrument aussi délicat. Donc ce que j'ai fait, c'est d'abord en fait d'écouter cet instrument, d'écouter son répertoire et dialoguer en fait en tout respect et aussi en écoutant les thèmes qui entre la mandoline et les pianos on se passe avec Julien Martineau. En plus, avec cet instrument, j'ai pu découvrir un répertoire tout à fait inconnu et pas aussi joué pas autant. Et, par exemple, des morceaux originaux pour mandoline des Ludwig van Beethoven, qu'on découvre cette année, je pense cette année, l'anniversaire Beethoven, c'est aussi une occasion pour découvrir un nouveau Beethoven. Donc, à la place d'enregistrer un 7e album des sonates pour piano de Beethoven, j'ai préféré en fait découvrir un nouveau répertoire grâce à Julien Martineau qui m'a donné cette possibilité.
Oui, vous les avez réellement exhumées, hein, ces quatre partitions de jeunesse de Beethoven écrites pour piano et mandoline. On le disait, c'est quand même un instrument assez rare de nos jours. C'est ça qui explique pour vous que ces partitions soient un peu restées au fond d'un tiroir pendant toutes ces années.
C'est un Beethoven jeune qui a écrit ça pour une jeune comtesse qui l'a inspiré pour écrire cet instrument. Mais vous savez, dans Beethoven, au début, on ressent tout ce qu'il y aura à la fin. Dans la première symphonie, on a déjà des éléments de la 9e. Donc, dans l'adagio qu'on joue avec Julien Martineau, Je trouve beaucoup de choses qu'on retrouve, par exemple, dans des sonates pour piano de Beethoven. Donc, ce sont des chefs-d'œuvre, même si Beethoven était en fait très jeune et pas aussi connu. Voilà.
Alors sur ce disque qui sort chez Naïve ou qui est sorti le 24 janvier dernier, il y a également des reprises comme celle de Fifths of Beethoven, le tube de Walter Murphy qui reprenait le thème de la populaire 5e symphonie sur un rythme un peu plus disco, et des créations. On va écouter un extrait de la lettre à l'immortel bien-aimé de Corentin à Paris. Voilà, ça c'est la création d'un jeune compositeur toulousain, Corentin, à Paris, à partir de la lettre d'amour retrouvée après la mort de Beethoven. On l'entend, mais c'est peut-être comme ça toujours quand on retrouve ce son si particulier de la mandoline. Il y a un côté très musique de film. Hein. On a assez vite l'impression, oui, d'être quand même devant Le Parrain, voilà, avec du Nino Rota, hein, et ce thème principal du Parrain, de The Godfather, hein, du film.
Absolument, Il, ouais, Padrino.
C'est, ouais, ça, on retrouve ces influences-là. La jeune création, comme Corentin à Paris ou Les Maîtres, vous en avez eu pas mal, et pas des moindres, Vanessa Benelli-Moselle. Le compositeur allemand Karl-Heinz Stockhausen, que vous avez rencontré un an avant sa mort en 2007, qu'est-ce qui vous a rapproché tous les deux, vous, la pianiste plutôt classique, même si vous aimiez déjà beaucoup le contemporain et que vous commenciez à en apprendre, et lui qui est quand même aujourd'hui considéré comme un des pionniers, une des figures de la musique électroacoustique, et qui est un compositeur totalement cosmique, parfois assez clivant parce que sa musique n'est pas facile. Comment vous vous êtes retrouvés tous les deux?
Alors lui, il est une légende, il était une légende vivante quand je l'ai rencontré. J'ai enregistré des morceaux de Stockhausen pour la radio, Radio 3 en Italie. Et les journalistes, historiens de musique qui me présentaient m'ont suggéré d'amener cet enregistrement à Stockhausen le lendemain dans la cathédrale de Milan où il faisait un concert. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis partie et j'ai donné cet enregistrement en fait pas d'une manière entre nous, comme on dit, pas professionnelle, parce que c'était passé à la radio effectivement, mais c'était pas publié par une maison de disques. Donc c'était vraiment un enregistrement que j'ai fait un peu pour moi-même.
Mais vous aviez quel âge? 18 ans en plus?
Ouais, j'avais 19, 17 ans. 17 ans. Et donc je l'ai amené, et après deux semaines, j'ai reçu une lettre à la maison écrite par par un crayon argenté avec la signature de Stockhausen, où il m'a invité effectivement à étudier avec lui à Courten après 2 semaines. Donc le tout s'est passé dans les temps d'un mois. Voilà. Donc ces rencontres après, ça a changé ma vie, ma perception, l'influence que la musique contemporaine a eu dans ma vie, dans mon développement artistique, parce que quand je me suis mis à la musique contemporaine et quand je m'aimais, j'approche la musique contemporaine, je l'ai fait pour le public, je l'ai fait pour les gens qui après les concerts viennent me voir et me disent merci Vanessa, merci pour nous avoir fait découvrir ces compositeurs, cette musique, parce que nous on connaissait pas. Donc comme dans toute chose, quand on connaît plus, la connaissance nous donne envie de découvrir plus. On se pose plus de questions. Mais je le fais aussi pour moi, parce que moi, je ne pourrais pas vivre dans 70 ans de musique. Mais je pourrais bien le faire, comme beaucoup d'interprètes d'ailleurs qui ne jouent à partir de Bach à Stravinsky quand ça va bien. Mais oui, j'ai cette envie en fait de partager, et je crois que notre histoire artistique et musicale est beaucoup plus importante des 70 ans de musique. D'ailleurs, je découvre aussi la musique baroque, la musique ancienne, que je vais bientôt proposer au public, car Philippe Emmanuel Bach, Handel, Paradisi, ce sont des compositeurs qu'on joue pas assez souvent, et donc, mais toujours avec la musique ancienne, on se pose une question d'instrument. Alors, après Nicolas Arnoncourt, qui a fait un travail énorme avec des orchestres, on ne peut pas approcher un répertoire ancien sans se poser des questions philologiques qui ont été développées pendant le XXe siècle. Donc, la naissance des nouveaux ensembles baroques fait si que les orchestres, depuis quelques années, approchent un répertoire à partir de Brahms. On voit de moins en moins les Berliner Philharmoniker qui jouent une symphonie de Haydn ou de Mozart. Et donc c'est le répertoire en fait du XXe siècle qui nous reste, je pense, à découvrir aussi bien que les contemporains, donc le XXIe siècle.
Vous voyez donc comme une passeuse, aussi comme une traductrice, avec cette envie de faire connaître et peut-être de faire aimer des compositeurs, des partitions peu connues ou plus difficiles à appréhender pour un public notamment de néophytes. Stockhausen, on va l'écouter, il vous a appris le respect du texte, il vous a laissé aussi des partitions annotées. Est-ce que c'est rassurant pour une musicienne ou est-ce que c'est contraignant? Est-ce que vous l'avez vécu comme une bride sur le cou ou au cou? Vous nous le direz, on l'écoute d'abord.
On ne choisit pas la musique. On a des visions musicales et on les note, c'est tout. En général, chaque œuvre nouvelle pose des problèmes qu'on n'a jamais résolus avant. La difficulté n'est pas seulement une difficulté technique, mais surtout une difficulté psychologique. C'est-à-dire, les gens n'ont pas appris de faire ce que je demande. Et moi-même non plus. Il faut étudier chaque œuvre nouvelle comme on étudie une nouvelle langue.
Voilà, Stockhausen qui parle de la difficulté d'interpréter des œuvres nouvelles. C'était en 71, et notamment les siennes. Mozart, Beethoven, Chopin, des œuvres déjà multi-interprétées, multi-traduites. C'est plus compliqué de repartir à zéro, de travailler sur des partitions qui n'ont pas encore été ou très peu interprétées.
Absolument, et aussi il y a la difficulté du texte qui est bien évidemment plus difficile à lire et approcher d'un texte de Mozart où il y a beaucoup moins de notes, beaucoup moins d'indications. Après, l'interprétation reste difficile, bien sûr, à Mozart, mais en travaillant avec des compositeurs comme ça, et d'ailleurs avec beaucoup d'autres, avec Benjamin, j'ai découvert en fait que les compositeurs entre eux, ils sont très très différents. Il y a des compositeurs qui souhaitent vraiment l'interprète suit les textes, donc la fidélité au texte qui m'a effectivement appris Stockhausen, et qui viennent en fait aussi des compositeurs comme Debussy et Ravel qui ont tout à fait réinventé ces rôles d'interprète, car les rôles d'interprète à l'époque de Liszt par exemple étaient un interprète compositeur qui inventait des notes, ajoutait des cadences, des cadenzas, des petits escaliers, des décorations à la pièce, alors qu'avec avec les 20e siècle et avec Ravel qui dit aussi que l'interprète est un esclave d'un compositeur, bon, sans arriver à ce point-là, on a mis en discussion les rôles d'interprète. Donc en travaillant avec des compositeurs comme Stockhausen, on se rend compte qu'il y a des compositeurs qui apprécient la fidélité au texte, mais comme Stockhausen mi disait, il faut que ça soit personnel. Et il y a aussi en revanche des compositeurs qui découvrent grâce aux interprètes une nouvelle œuvre de leur même. Donc et ça, on peut l'appliquer au passé.
Mais vous faites souvent des rapprochements entre des compositeurs d'époques très différentes. Rachmaninov, que vous rapprochez avec un Philip Glass dans votre disque Echoes. On peut parler là encore de Stockhausen, que vous associez dans le disque Révolution à Stravinsky ou encore à Carole Beffa. C'est une manière de nous faire comprendre que, à travers tous ces langages musicaux, il y a des associations d'idées, de rythmes. Ce sont des compositeurs, des musiques pour vous, qui se marient bien, qui s'unissent bien.
Oui, à chaque fois, il y avait un thème qui rapprochait les compositeurs qui j'ai mis ensemble. Par exemple, Rachmaninov et Glass, la migration, Scriabin et Stockhausen, c'est cette approche œuvre d'art totale qu'il y avait, les deux pensées de pouvoir changer le monde avec les Mysterium de Scriabin et les cycles Licht de Stockhausen. Donc, à chaque fois, il y a souvent soit des esthétiques assez différentes que je mets en comparaison et que je respecte, parce que moi j'ai joué à chaque fois des compositeurs très différents comme Carole Beffa et Stockhausen que j'ai voulu mettre en comparaison dans un même disque parce que je trouve qu'en tant qu'interprète il faut donner aux gens la possibilité d'apprécier, de découvrir des différentes esthétiques qui sont quelquefois en contraste entre...
Vous avez 32 ans aujourd'hui, il y a des interprètes qui sont, il y a des compositeurs que vous n'arrivez pas encore pour l'instant à interpréter, des partitions qui vous donnent du fil à retordre, vraiment.
Pas ce que j'ai joué. il y aura enfin, des
partitions... Pas ce qui a été public, mais justement.
Il y a des partitions de Ferniau que j'ai vues, elles sont très compliquées. Soit des partitions assez minimalistes qui m'intéressent d'Arvo Pärt. Donc vraiment, je suis ouverte à tout type d'esthétique. Mais bien sûr, moi, en tant qu'interprète, je me sens plus proche des compositeurs avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaillerai.
Alors on y vient. Vanessa Benelli, Moselle, est notre invitée jusqu'à midi et demi. Il est midi presque 20 sur France Culture.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Après avoir joué et appris à diriger aussi avec Daniel Harding, c'est un autre Britannique que vous avez retrouvé le 7 février dernier pour le concert d'ouverture du festival Présence à l'auditorium de Radio France, George Benjamin. Une édition au passage qui a battu son record de fréquentation avec plus de 10 000 personnes venues écouter les quelques 82 œuvres lors de ces 17 concerts vraiment très particuliers. C'est lui qui vous a demandé, paraît-il, d'interpréter son duo pour piano et orchestre. On écoute un extrait de cette soirée. Voici donc une captation Radio France.
Thank you.
De cette soirée magnifique, donc à l'auditorium de Radio France. Il est beau cet auditorium, non?
Oui. Je l'adore.
C'était le 7 février dernier avec à la baguette le Britannique Georges Benjamin et au piano vous et l'Orchestre National de France, l'ONF. Composer, c'est jouer un jeu dont le désir ultime est la communication. Voilà ce qu'il dit Benjamin au micro de France Musique. C'est un ancien élève d'Olivier Messiaen, une figure aujourd'hui de la musique contemporaine. Comment il est? Cet homme.
Il est absolument charismatique. Je suis tombée sous son charisme depuis que je l'ai rencontré il y a 7 ans, 8 ans à Londres, pendant un concert d'un très cher ami de George Benjamin, Oliver Nassen, qui est malheureusement décédé il y a quelques temps, qui nous a présenté et donc j'ai pu rencontrer cette légende encore, une légende que je connaissais déjà naturellement.
De Stockhausen à Debussy et Ravel, la musique n'est pas qu'une porte d'entrée dans l'imaginaire d'un compositeur, elle permet aussi de mieux appréhender une langue, une culture, un pays. Vous avez aussi retravaillé votre Ravel pour ce disque que vous avez réalisé, sorti en décembre dernier. Vous comprenez mieux les Français et la France depuis que vous avez retravaillé sur cette musique de Ravel?
Oui, déjà, ça m'a donné l'occasion de lire quelques livres sur Debussy, car j'ai enregistré un disque de Debussy il y a un an, et avec Ravel, je continue cette exploration de la culture française. Pour moi, c'est très important quand j'approche un compositeur de lire et de me documenter sur la période historique, des anecdotes qui me donne l'atmosphère, la sonorité, les couleurs pour m'exprimer le mieux possible dans leur langage. Donc Ravel et Debussy, en comparaison, sont des compositeurs assez différents. Debussy plus aphorique, qui décrivait Ravel comme un sorcier, la musique de Ravel comme la maison d'un sorcier. D'une façon, Debussy beaucoup plus sincère dans sa communication lorsqu'on parlait de communication avec Benjamin, mais Ravel avec cette masque de vérité lui permet en fait de s'exprimer, d'exprimer sa vérité à travers, toujours avec l'artifice. C'est un jardin de sonorités qu'on découvre à chaque fois avec des musiques qui s'inspirent toujours de la nouvelle qui n'est plus là, qui était là avec des classicistes comme Couperin, Rameau, où il peut être considéré les derniers représentants. Mais c'est un univers, c'est une France qui n'est plus là déjà autant de Ravel. Donc maintenant, avec des pianos, des instruments, des salles, des auditoriums comme on a maintenant, encore il faut se remettre en question. Un artiste, je trouve qu'il doit être curieux, se poser des questions, se remettre en discussion à chaque fois. Donc avec l'écriture de Ravel, par exemple, il revient en arrière avec des notes répétées qu'autant de Couperin, ça servait à prolonger les sons. Avec des sonorités tout à fait néo-baroques, mais en conservant toujours cette cette révolutionnarité, cette modernité, en utilisant des harmonies et des sonorités très recherchées. Mmh. Et aussi, comme Benjamin, encore j'ai fait toujours des comparaisons, vous avez raison. Dans les concertos, par exemple, Ravel, il associe à chaque fois des timbres et des registres du piano à l'orchestre. Donc, le piano à chaque fois disparaît dans l'orchestre ou au contraire, ça se montre. Par exemple, dans la cadenza du deuxième mouvement. Et c'est la même chose que j'ai retrouvée avec George Benjamin qui l'explique aussi dans la préfation de son concerto duet.
C'est vous, Vanessa Benelli-Moselle, au piano avec le Royal Scottish National Orchestra, dirigé par le Mexicain Carlos Miguel Prieto. Extrait de votre disque Ravel qui a paru en décembre dernier chez Decca Classics. Trop souvent catalogué impressionniste, vous dites que Ravel a bien plus à dire, d'où votre envie d'aller piocher dans son répertoire des œuvres aux influences très variées, comme la sonatine, le tombeau de Couperin, comme la pavane pour une infante défunte qu'on retrouve sur ce disque, et qu'il rapproche d'un forêt avec lequel il avait d'ailleurs étudié au conservatoire, et ce concerto en sol de Ravel avec ce deuxième mouvement. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce morceau-là particulièrement, en quelques mots ?
Dans Ravel, dans son concerto, par exemple, il y a des influences du jazz qu'il découvre pendant ses tournées, mais il y a aussi les pianistes virtuoses qu'on découvre avec la sonatine. Ravel était toujours plus à l'aise avec les crayons qu'avec l'instrument ou le podium où il était aussi chef d'orchestre. Donc j'ai voulu mettre en comparaison ces quatre œuvres dans un disque qui parle vraiment à tout le monde, parce que le langage de Ravel est un langage simple et fluide qui peut parler vraiment aux gens qui découvrent la musique classique.
Merci beaucoup à vous, Vanessa Benelli-Moselle. Vous serez le 2 mars à Toulouse en concert avec votre complice, le mandoliniste Julien Martineau. Je rappelle deux albums sortis, l'un en janvier chez Naïve, les suites de Beethoven, l'autre, cet album Ravel avec son concerto en sol, sorti le 6 décembre dernier chez Decca Classics. Et puis vous serez aussi à la mi-juillet avec Radio France au festival Radio France de Montpellier. Au plaisir de vous y retrouver. Vous indiquez avant juste de vous laisser une séance France Culture Cinéma, ce sera au Majestic Bastille à Paris. Ce sera pas avec vous, hein, pour le coup, Vanessa Benelli-Moselle, mais avec peut-être la réalisatrice brésilienne Sandra Cogut, à l'occasion de la sortie de son film qui sera projeté, Trois étés, portrait vraiment au vitriol de la société brésilienne néolibérale, rongée par ses fantômes et ses démons. Cette avant-première sera suivie d'un débat avec la réalisatrice, animée par notre très cher Antoine Guillot. Ce sera demain, jeudi 27 février, à 20h au Majestic Bastille à Paris. Venez, venez, venez. Plus d'infos sur franceculture.fr.